La revue de presse avec Philippe Gault.
Philippe, salut. L'affaire du meurtre de la petite Lola, affaire dramatique, et ses répercussions politiques font la une des quotidiens de ce matin.
L'onde de choc, titre Le Parisien aujourd'hui en France, qui consacre 4 pages à ce monstrueux assassinat d'une fillette de 12 ans il y a 4 jours à Paris. Une affaire qui soulève plusieurs questions. Tout d'abord sur les circonstances de sa mort. Un crime sans mobile cohérent, comme le titre Libération, qui revient sur la version des faits présentée par la suspecte Dabia B., mise en examen lundi, et qui aurait évoqué un différend avec la mère de la victime. Il y a ensuite le statut et la situation de cette suspecte, ressortissante algérienne de 24 ans, interpellée le 20 août dernier à l'aéroport d'Orly, car son titre de séjour comme étudiante délivré en 2016 n'était plus valable. Elle s'était alors vue notifier une obligation de quitter le territoire, une OQTF. Elle avait donc 1 mois pour quitter d'elle-même la France.
Et donc cette fameuse obligation pose question.
Ce dispositif administratif dont disposent les préfets oblige en effet une personne à quitter le sol français de son propre gré dans un délai d'un mois. Délai d'un mois au-delà duquel son non-respect ouvre la voie à une expulsion vers le pays d'origine. En 2019, précise Le Parisien, près de 123 000 OQTF avaient été notifiées. Mais dans les faits, elles sont très peu appliquées et au bout de 13 mois deviennent caduques. Le problème vient essentiellement du fait que pour les départs rapides, la règle est l'assignation à résidence ou le placement en centre de rétention administrative. Or, la France ne dispose que de 1800 places saturées en permanence. Et c'est précisément sur ce point que s'appuie une partie de la classe politique à droite et à l'extrême droite pour se lancer dans une indécente course à la récupération.
Et justement, nous abordons la récupération politique qui crée la polémique.
Le vœu de la famille de la petite Lola, qui ne souhaite pas qu'il y ait de récupération politique, semble ne pas avoir eu l'écho, surtout à droite de l'échiquier politique qui a très vite lancé sa croisade contre, je cite un élu Les Républicains, la faiblesse et le laxisme de la République qui n'a pas procédé à l'expulsion de la suspecte. Suspecte d'un acte barbare qui n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire, a appuyé Marine Le Pen. Dans Le Parisien, Marie-Christine Tabet s'élève contre ces profiteurs de malheur qui rôdent autour du drame de Lola et de sa famille et rappelle que dès lundi, une association revendiquant sa proximité avec Éric Zemmour a acheté 3 noms de domaines internet très évocateurs, dont Manif pour Lola et Justice pour Lola. Dans Le Figaro, Guillaume Tabar estime que si le meurtre de Lola est bien un sujet politique et qu'Emmanuel Macron s'était engagé à ce que la totalité des OQTF soit exécuté, il y a un abus à prétendre en faire l'exemple de la faillite d'une politique migratoire. Entre l'amalgame et le déni, il y a la place pour la réflexion, la prise de position et la décision.
C'est donc cet après-midi, Philippe Gault, à l'Assemblée, que le gouvernement va activer le premier 49-3. Des présidences Macron.
Et c'est un faux suspense pour La Croix, car selon son directeur de la rédaction, Jérôme Chapuis, son existence même, celle du 49-3, génère une situation regrettable dans laquelle personne n'a intérêt à jouer le jeu de la discussion constructive. À quoi bon, puisqu'à la fin, comme jadis l'Allemagne au football, c'est le gouvernement qui gagne. Malgré tout, ce 49-3 met l'exécutif au pied du mur, selon Le Figaro, fait monter la pression pour Macron, titre La Dépêche du Midi, et relance le débat à la NUPES pour l'opinion qui se demande également à quel jeu jouent les 62 députés LR qui joueraient un rôle d'arbitre dans cette situation. Une séquence 49-3 qui ne ferait que commencer pour le canard enchaîné qui évoque la fine stratégie du 49-3 à répétition et en prévoit un second annoncé d'ici la fin de la semaine, cette fois-ci, concernant le projet de loi de finances de la Sécurité sociale.
Y aura-t-il, question importante, assez d'électricité en France cet hiver? La question se pose à nouveau dans les journaux ce matin. Philippe Gault.
Question que posent les échos, car même si la météo clémente, la baisse vertueuse de la consommation de 3 à 4% en septembre et les réserves de gaz favorables écartent le risque de coupure à court terme, le manque de production nucléaire laisse planer de nombreuses incertitudes, notamment en raison du mouvement de grève qui touche EDF et perturbe la remise en service des 25 réacteurs sur 56. Mise à l'arrêt pour maintenance ou réparation, Libération dit que c'est RTE justement qui tire le signal d'alarme, alors qu'à la mi-septembre, le gestionnaire du réseau électrique avait pourtant présenté des scénarios plutôt optimistes pour les 6 mois à venir. Désormais, RTE ne peut s'avancer que sur les 4 semaines prochaines, au cours desquelles il ne devrait pas y avoir de coupure de courant.
Et puis nous allons parler maintenant d'un aspect totalement inattendu ce matin de la carrière posthume de Georges Brassens.
Oui, une 20aine de pipes, des costumes de scène, des affiches, des ébauches de chansons, des correspondances amoureuses font partie d'une vente aux enchères qui aura lieu le 22 octobre, donc samedi prochain, 101 ans jour pour jour après la naissance de Georges Brassens, à qui ses lots mis en vente ont appartenu. Des souvenirs précieux dont la mise à prix s'est s'élèvent à 1 million d'euros et qui sont mises en vente par la fille de Pierre Antagnente, le secrétaire et complice de toujours de Georges Brassens. Mais les héritiers légitimes du poète-chanteur, son neveu et sa petite nièce, s'opposent à cette vente et ont déposé une assignation en référé qui sera examinée cet après-midi. Serge et Eve Casani s'opposent à cette vente car ils souhaitent que ce qu'ils désignent comme les archives personnelles de leur aïeul soit protégé à la Bibliothèque nationale de France par exemple et consultable par tout le monde. Ce sera le cas notamment des carnets personnels de Georges Brassens remplis de réflexions sur les curés, les cons qu'il aimait brocarder, mais aussi sur les femmes et les copains d'abord.
Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergiture, c'était pas de la
vie. Les copains d'abord, Georges Brassens. Dans un instant, Pascal Bruckner, Marc Lambron, soupçon de téléphone avec Christian Macarian. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et nous vous en remercions.